Bonjour, autre radio, autre culture. Aujourd'hui, nous recevons Franck Galli, qui est violoniste à l'Opéra de Paris. Franck, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'étais très intéressée, parce que nous n'avions pas l'expérience d'avoir un violoniste d'un très grand orchestre, d'une espèce d'entité aussi énorme que l'est l'Opéra de Paris. Comment on sent qu'on est musicien à l'Opéra de Paris ?
Honnêtement, on se sent bien. Mais je pense que c'est aussi une question d'état d'esprit. Enfin, mon père était à l'Opéra de Paris. Tout petit, j'allais assister aux répétitions, ou aux générales, ou à des spectacles. Donc, je ne dirais pas que je me suis senti à la maison, mais c'est... bien entendu, au début, on est les premiers spectacles, c'est un métier particulier, la fosse. C'est une autre façon de faire la musique, c'est quand même de l'accompagnement tout le temps. En même temps, il faut à la fois lire sa partition et avoir un œil sur le chef, mais en même temps, il faut écouter énormément, comme toujours dans le jour d'un orchestre. C'est différent du concert symphonique, ce sont des spectacles qui sont longs, souvent. C'est plus fatigant, c'est peut-être une fatigue qui est moins concentrée, mais qui est dans la durée de toute une soirée. C'est pas pareil, ce sont vraiment des métiers différents, le symphonique ou l'opéra. Mais je veux dire, l'Opéra de Paris, c'est une maison extraordinaire quand même.
Vous êtes combien de musiciens ?
Je ne saurais pas le dire exactement, parce que comme maintenant qu'il y a deux théâtres, avant il y avait seulement le Palais Garnier, depuis Bastille, et donc il y a des soirs où les deux théâtres jouent en même temps, on doit être à peu près l'équivalent de deux formations, c'est-à-dire grosso modo 170-180
musiciens. 170-180
musiciens. Il faut ça, ouais, parce que ne serait-ce que, par exemple, là ces jours-ci, on joue La Femme sans ombre de Richard Strauss. Il y a, je crois, 103 musiciens dans la tablature, dans la fosse. Mm-hmm. Donc, il y a d'autres spectacles ailleurs et les productions s'enchaînent, ça tourne.
Alors, quel a été votre cursus pour pouvoir rentrer à l'Opéra de Paris ?
Le cursus logique, c'est les études au Conservatoire National Supérieur. Mais le fait d'entrer au Conservatoire National Supérieur ou d'en sortir ne donne pas le droit de rentrer à l'Opéra. Parce que après, de toute façon, ce sont des concours. Les places sont mises en concours quand il y a un départ à la retraite, quand il y a un décès, quand il y a une démission, etc. Parce qu'on ne peut pas augmenter l'effectif des orchestres au fur et à mesure que les gens sortent du Conservatoire. Sinon, ça ferait des orchestres.
Il y a une chose qui m'a amusée lorsque je me suis amusée à regarder le programme d'entrée, des concours d'entrée. Ouais. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des postes à pourvoir au niveau des violons. Mmh. Troisième violon, deuxième violoncelle, etc. Et il y a une petite phrase qui m'a fait tilt, c'est qu'on marque « tout ou partie des épreuves peuvent avoir lieu derrière un paravent ».
Ah oui, ça c'est extra. Enfin, avant, ce n'était pas le cas. Moi, je sais que quand je suis rentré, il n'y avait pas de paravent. Après, il y a eu des périodes où on mettait un paravent pour les premières épreuves, jusqu'à l'épreuve finale. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le paravent. Pour le premier tour, pour le deuxième tour, s'il y a 50 candidats, etc. Jusqu'à les deux premiers tours se font derrière paravent. On ne sait pas qui, les gens ont des numéros, on ne sait pas. Comme ça,
éviter le choix.
C'est pour éviter le choix, c'est pour éviter. C'est quand même un métier où, grosso modo, les gens se connaissent.
Oui.
Et c'est pas parce qu'ils se connaissent qu'ils se reconnaissent. Donc, quand ils sont derrière paravent, on ne sait pas qui est qui. Les gens jouent, et puis il y a forcément aussi ceux qui sont dans le jury qui ne savent pas qui est le candidat. Mm-hmm. Par contre, il est certain qu'arrivé à la fin du concours, à l'épreuve finale, il ne faut pas simplement entendre les gens, il faut aussi voir comment ils jouent.
Oui,
parce qu'il y a aussi une question de position, de ceci, de cela, de façon de tenue, pour le violon, de tenue d'archet, de tenue de l'instrument, c'est aussi un tout.
Alors moi, j'avais pris le parti de penser que c'était parce que le type, il avait le tract, et pour éviter le tract, on le mettait derrière le paravent.
Honnêtement, je pense pas que ça atténue le tract. Hein. Oui. Je pense qu'on, je sais pas, si on est tout seul, en sachant qu'il y a des gens qui écoutent, mais qu'on voit pas, qu'on sait pas leur réaction, je sais pas, parce que moi, j'ai jamais eu à subir l'épreuve du paravent. Mais bon, au conservatoire, on jouait, on voyait le jury vous voyait. Quand je suis rentré à l'opéra aussi, c'était comme ça. Bon, peut-être pour des raisons d'équité, entre guillemets, peut-être ça rassure certains candidats, ça nuit pas en tous les cas. Hein.
Et le jury, il se choisit comment ?
Le jury se choisit, en général, il y a 10 membres du jury, 5 sont issus de l'orchestre. Sont en général des solistes des instruments concernés ou d'un plus peut-être un instrument avant ou en général les solistes et 5 sont choisis par l'administration. Donc il y a souvent un représentant du ministère, un chef d'orchestre, des personnalités extérieures qui peuvent aussi demander à ce qu'il y ait en plus En plus du quota normal de membres de l'orchestre, est-ce qu'il y en ait d'autres qui viennent, etc. Mmh. Ça fait 10 personnes qui écoutent, 10 paires d'oreilles, donc on peut supposer que quand les gens réussissent le concours, c'est parce que de toute façon, il faut avoir un certain nombre de voix.
Minimum, oui, exactement. Quoi. Il y a beaucoup de demandes pour un instrument, par exemple pour un violon.
Le dernier concours de violon, c'était il y a peu de temps, 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus, il y a eu 54 candidats et je crois qu'il y en a eu un ou deux qui ont été reçus, c'est tout. Enfin, moi, pour ma part, je me suis présenté plusieurs fois. Hein. Je n'ai pas été reçu du premier coup. Le premier concours, c'est le bon. Il y a le trac, il y a l'ambiance, il y a les circonstances, il y a le hasard, il y a le fait que peut-être il y a un jour où on joue bien et puis, le lendemain on joue moins bien. Ça, c'est le problème de la musique, de la musique vivante. Hein. C'est comme ça.
Alors, parallèlement à votre carrière de violoniste à l'Opéra de Paris, je sais que vous avez quand même pas mal bourlingué.
J'ai toujours voulu, même petit, de toute façon, j'avais toujours voulu diriger un orchestre. Je m'explique, souvent les gens disent à quoi ça sert un chef d'orchestre ? Effectivement, c'est pas une mauvaise question. Le chef d'orchestre, il faut pas penser, c'est une erreur de penser qu'il est plus savant que les musiciens qui sont devant lui. Il a simplement un avantage sur eux, enfin, il peut en avoir plusieurs, mais il en a au moins un, c'est qu'il a la partition et il sait exactement qui fait quoi dans l'œuvre qu'il dirige. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui, à mon avis, est beaucoup plus importante, c'est que c'est en fait le seul moment où... C'est la même chose qu'un soliste qui joue un concerto. Le chef d'orchestre, quand il dirige, il fait la musique comme il a envie qu'elle soit. Que ce soit pour des questions de tempi, de phrasé, de dynamique. Bon, il organise... C'est pas une vision... c'est pas la seule vision qu'on peut avoir de la partition. Mais au moment où il la dirige, c'est celle qui vient de l'intérieur. Menuhin disait la musique, c'est une espèce de photo en noir, de photo de l'état d'âme du musicien. Et ben, la direction, chaque mesure qui est dirigée, chaque geste, mais aussi bien pour celui qui joue que pour celui qui dirige, c'est un peu la même chose, sauf qu'on ne fait pas la même chose au même moment, mais c'est la même idée, c'est la même pensée. Le chef d'orchestre fait ça. Alors après, bon, il y a une question technique, de bras droit, de bras gauche, d'organisation du tempo, de phrasé, etc. Mais l'idée, c'est de mener un groupe, d'arriver par son savoir, par sa gestique, par le souffle, par son charisme ou par le manque de toutes ces qualités, arriver à mener un groupe de professionnels, de gens qui savent très bien ce qu'ils ont à faire et à leur donner la même idée à ce qu'ils jouent, à ce qu'ils interprètent votre idée. Voilà. Alors, grosso modo, le chef d'orchestre, c'est à ça qu'il sert, et à rien d'autre. C'est pour ça qu'en général, les musiciens voient tout de suite quand un chef d'orchestre ou prétendu tel dirige l'orchestre ou dirige pour le public. C'est pas du tout. L'efficacité n'est pas la même. C'est peut-être moins élégant, mais c'est souvent plus en rapport avec la partition ou avec l'idée qu'il veut qu'on ait. Et donc, moi, quand j'étais petit, j'ai toujours voulu diriger. Et après être rentré à l'opéra, effectivement, j'ai suivi les cours de direction d'orchestre de Pierre Dervaux à l'école normale. Et puis après, j'ai rencontré un chef d'orchestre italien, napolitain. Et ça, c'était sa vraie nationalité, et c'était différent, et qui dirigeait partout, et qui m'a pris comme assistant, et qui m'a emmené apprendre le répertoire dans les plus grands théâtres du monde. Et ça, c'était fabuleux. L'extraordinaire, c'est que c'était quelqu'un qui connaissait absolument tout le répertoire, qui dirigeait absolument tout sans partition, et qui détestait répéter, donc c'était moi qui faisais le travail, et il n'y a pas de meilleur apprentissage que quand on met soi-même la main à la pâte. Et ça, c'est des fois, maintenant, bon, moi, je vois des chefs d'orchestre qui viennent à l'opéra, par exemple, et qui sont assistants, des chefs invités, et je trouve très dommage qu'on ne leur donne jamais la baguette pour qu'ils dirigent un temps soit peu l'orchestre pendant une répétition, d'abord qu'ils montrent ce qu'ils ont à faire, ensuite qu'ils aient une perception autre que celle du livre, car c'est pas pareil. Et il y a des moments où il y a des, par exemple, pendant des scènes orchestres, où il y a des ensembles, des entrées différentes, des chœurs, il y a un dosage à faire. Et le directeur musical invité, pour aller dans la salle voir comment ça se passe, et confier la baguette à son assistant. Et ça, ils ne le font jamais, et ça, je trouve ça dommage, parce que ça fait partie de l'apprentissage. Mm-hmm. Mais bon, visiblement, alors, je sais pas si c'est par manque de confiance, ou de peur que l'assistant soit meilleur. Moi, je sais pas. Ou penser qu'il est trop mauvais et donc on ne peut pas lui laisser les rênes, ou alors penser qu'il est trop bon et que c'est dangereux, je ne sais pas. Mais en tous les cas, le fait est là et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'un assistant qui ne fait que porter la partition ou les crayons, ça, c'est quand même une mince partie du travail.
Un petit retour à l'Opéra de Paris. Il y a plusieurs chefs d'orchestre à l'Opéra de Paris.
Ces derniers temps, depuis... c'était qu'en 2000, depuis 4-5 ans, on n'a plus de directeur musical, on n'a que des chefs invités. Là, pendant, entre 1900, c'était quand 96, sous Hugues Gall, sous la direction d'Hugues Gall, jusqu'à son départ, il y avait un directeur musical qui était James Conlon. Depuis que c'est Gérard Mortier qui est directeur de l'opéra, il n'y a plus de directeur musical. Disons, il y a une espèce de pool de plusieurs chefs d'orchestre qui sont un peu fidélisés, mais qui ne font pas le travail d'un directeur musical. En 2009, c'est le départ, Gérard Mortier s'en ira et sera remplacé par à la direction de Nicolas Joël, qui est actuellement directeur à Toulouse, et donc qui va venir à l'Opéra de Paris à partir de septembre 2009. Et lui a nommé un directeur musical. On va voir quelle est la politique... voulu par le directeur musical. Si c'est une politique, en même temps, des maisons comme ça ne marchent pas que par le spectacle, que par le spectacle qu'on donne tous les soirs. Et après, il faut voir s'il y a une politique audiovisuelle, ça devient important. Il y a le fait que, par exemple, Internet permettrait, après c'est des questions de technologie ou de possibilités techniques, de diffuser en direct dans le monde entier. Un spectacle qu'on donne un soir à Paris. Donc après, il faut voir comment toutes ces choses vont éventuellement s'installer, si elles sont prévues ou si c'est encore dans le domaine du rêve.
Alors pour des grands orchestres comme celui de l'Opéra de Paris, on parle de celui de l'Opéra de Paris puisque vous y êtes. Je veux dire, le chef d'orchestre, il met combien de temps pour arriver à faire passer son idée et ce qu'il veut obtenir de musique d'opéra ?
Il y a une espèce de schéma. Il y a une espèce de schéma qu'après, il faut adopter à la difficulté de l'œuvre qu'on a interprétée et aussi à sa longueur. Grosso modo, il y a, disons, le schéma, c'est 3-4 lectures d'orchestre. Il faut compter au minimum quand même une lecture d'orchestre par acte. Bon, après, ça, tout dépend de savoir si à l'intérieur de la partition, s'il y a des choses extrêmement difficiles, techniquement, de mise en place, etc. Mais il faut d'abord que l'orchestre sache ce qu'il a à jouer, mais avec le chef d'orchestre. C'est pas parce qu'il faut voir ce que le chef d'orchestre va demander précisément à tels endroits, du point de vue de la couleur orchestrale, du point de vue du phrasé, du point de vue simplement de ses enchaînements de tempi, par rapport à un chanteur qui peut avoir un problème de voix, il faut baisser d'un demi-ton, ou au contraire, qui préfère chanter quelque chose, qui a une possibilité, un diaphragme qui lui permette de chanter une phrase beaucoup plus lentement que d'autres, etc. Donc, ça a l'air de petits ajustements, de rien du tout, mais c'est pas si simple. Ensuite, il faut une fois que l'orchestre a lu simple l'orchestre tout seul avec le chef d'orchestre, il y a ce qu'on appelle les répétitions à l'italienne, c'est-à-dire avec les chanteurs qui chantent, mais il n'y a pas du tout de mise en scène, ce qui permet d'entendre l'œuvre dans son déroulé du début à la fin, et que nous aussi, parce que tout le monde n'est pas obligé de même travaillant à l'Opéra de Paris n'est pas obligé de connaître l'intégrale du répertoire dans son entier, ça permet quand même de prendre des points de repère, savoir à quel moment l'entrée du baryton, la soprane, comment elle chante, et puis en même temps d'apprécier, de chercher la couleur, de voir ce qui va mieux le convenir, de voir si ça nous plaît, de voir si ça nous plaît pas. Il y a des timbres qui sont beaucoup plus agréables que d'autres, il y a des gens dont on peut apprécier l'interprétation d'un rôle, ce qui ne veut pas dire qu'ils le chanteront bien ou mal, et que tous les rôles qu'ils interpréteront seront aussi bien ou mal. Ça dépend. Mais on a des points de référence. Moi, par exemple, ça fait 30 ans que je suis à l'opéra, donc forcément, j'ai fait pas mal de répertoires, et donc quand j'entends quelqu'un chanter, j'ai des références par rapport à d'autres chanteurs qui sont venus dans des saisons précédentes chanter le même rôle. Une fois que tout ça est fini, on a quand même les mises en scène, les répétitions de mise en scène. Où là, et bien entendu, il en faut encore une par acte. Des fois plus, si le metteur en scène demande, s'il y a une scénographie qui est un peu lourde, s'il y a des choses qui sont très très compliquées, etc. Ce qui nous fait, grosso modo, un minimum de 12, pour monter une production, il faut un minimum de 12 répétitions. Bon, il faut aussi une générale, quand même. Une générale, c'est la dernière répétition qui, en principe, se passe comme au spectacle. Et donc, il doit rien se passer de grave, il ne doit pas y avoir de pépins, il ne faut pas s'arrêter quoi qu'il arrive, etc. Ça permet de faire les derniers ajustements. Et en général, et ça c'est une bonne chose, la répétition générale est évidemment publique, parce que l'acoustique change aussi quand même. On entend différemment. Et puis c'est une première idée de l'accueil du public. En général, l'accueil du public au général est toujours bon, mais il peut arriver qu'une mise en scène soit surprenante, qu'un décor plaise plus ou moins. Enfin, tout ça, ce sont plein de petites émotions, plein de petites qui font que le spectacle reste toujours vivant, en tous les cas.
Est-ce que vous avez, en tant que violoniste, vous avez participé à des orchestres symphoniques en dehors de la France ?
Des orchestres symphoniques en dehors de la France. Non,
ou
j'ai
des
pas.
Orchestres mais d'opéra, enfin.
Non, avant d'être à l'opéra, moi, j'ai travaillé comme. J'ai pas fait beaucoup de symphoniques. J'ai pas fait beaucoup de symphoniques. Avant d'être à l'opéra, j'ai été. Quand j'étais intermittent, puisqu'on appelle ça comme ça, j'étais supplémentaire ou à l'Orchestre de Paris ou à l'Orchestre de la radio, il y a de cela longtemps. Non, je n'ai pas fait beaucoup de symphoniques. Par contre, il y a quand même tout un... Par rapport à l'opéra, et ça malheureusement, il n'y a plus beaucoup maintenant, et c'est quand même bien dommage. Je crois que peut-être les gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est d'autant plus surprenant qu'on a... Il me semble qu'on n'a jamais autant entendu de musique que maintenant. Il y en a jamais eu... On n'en a jamais autant produit. On en achète pas mal, quoi qu'on puisse en dire. Et... Il y a quand même tout un pan du métier de musicien qui avant était florissant en France, qui était le métier de la musique de film, le métier de l'enregistrement de studio, de variété. Alors bon, la variété, ça pouvait aller de Johnny Hallyday à Jacques Brel ou Serge Reggiani, etc. Et ça, c'est un métier qui complètement a disparu. C'est problématique parce que il y a pas un nombre grandissant d'orchestres symphoniques ou d'orchestres lyriques en France. Il y a des institutions qui sont là et on peut pas en créer simplement plus que nécessaire. Or, il y a quand même des étudiants dans les conservatoires, il y a beaucoup de monde dans les conservatoires, il y a beaucoup de gens qui apprennent la musique, il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent et on sait pas et ça leur permettait en attendant de rentrer dans un orchestre symphonique ou dans un orchestre lyrique, quand même ça leur permettait de gagner leur vie. Et si eux gagnaient leur vie, il faut pas non plus oublier que les producteurs gagnaient bien la leur, et qu'en même temps, c'était, et même pour ce qui est de la musique de film, je veux dire, des gens comme Michel Legrand, Georges Delerue, Vladimir Costa, etc., se sont fait connaître à travers le monde parce qu'ils enregistraient avec des orchestres français. De musique qui pour la plupart, bon, bien sûr, il y avait des jeunes, mais il n'y avait pas que des jeunes, il y avait aussi les gens qui jouaient dans l'orchestre symphonique, etc. Et quand on écoute les disques de ces musiciens-là, de ces compositeurs-là, ou des gens comme Maurice Jarre, etc., c'est des gens, c'est des orchestres qui sont de grands talents, faits de musiciens de grands talents, il y avait des prises de son extraordinaires, etc. Et ça, c'est un métier, tout un pan de la musique qui a disparu. De la même manière qu'avant, moi j'ai entendu parler de ça, je ne l'ai pas bien connu, mais on laissait faire. Il y a dans les... Avant, dans des grands théâtres musicaux ou les cabarets comme le Lido, les Folies Bergères, etc., il y avait des orchestres. Et maintenant, on marche à la musique enregistrée. Et c'est dommage de voir que les gens ne peuvent plus vivre de leur art. L'art, c'est pratiquer la musique, ça n'est pas qu'un art vu de l'extérieur, c'est aussi un métier.
Oui, alors ça, on en avait discuté tout à l'heure hors antenne. Mmh. J'avais été très étonnée parce que j'étais sur un chat d'un site internet. Et l'on discutait sur la liberté d'avoir de la musique gratuite sur Internet, de pouvoir télécharger la musique gratuitement.
Moi, je veux bien que la musique soit gratuite. Si je vais à la boulangerie, que mon pain est gratuit, les musiciens aussi, autant que les historiens, les plombiers ou les charcutiers ont appris un métier pour l'exercer et pour gagner leur vie avec. Le charcutier traiteur fait des bons plats. Il pourrait les donner, parce que c'est un plaisir de faire la cuisine. Il paraît que c'est un plaisir. Mm-hmm. Donc, il pourrait les offrir, de la même manière que le musicien pourrait offrir sa musique, et que le plombier pourrait venir réparer votre douche gratuitement, puisque ça vous fait plaisir, ça lui fera plaisir de savoir que vous êtes propre. Il n'y a rien de gratuit.
Oui, alors c'est amusant, parce qu'on m'a sorti le principe de la culture gratuite. Il fallait obligatoirement que la culture soit gratuite, et donc on n'avait pas à payer pour télécharger de la musique. Les gens n'avaient qu'à se... S'ils n'étaient pas payés, c'est qu'ils se débrouillaient fort mal pour récupérer les taxes sur les disques vierges ou les disques durs, ou etc.
Je ne vois pas pourquoi les gens consommeraient, puisque c'est le mot à la mode, consommeraient de la musique ou consommeraient quoi que ce soit gratuitement. Si les gens vont voir un match de football, ils rentreront pas gratuitement dans le stade. S'ils vont au cinéma, ils payent leur place. S'ils veulent écouter un disque, ils l'achètent, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans un magasin. Par contre, moi aussi, je regarde beaucoup ce qui se passe sur Internet et ce qu'on y dit. Et c'est vrai que quand on voit qu'un fichier MP3, qui est en général pas très bon, c'est pratique, mais pas très bon, est vendu ce prix-là, sur Internet... Ça, c'est vrai que je crois que ça devait être vendu 0,99 €, et je crois que c'était EMI qui s'ils étaient un petit peu mieux, etc., les vendaient 20 ou 30 centimes de plus l'année dernière. J'avais vu quelque chose comme ça. Moi, ça me semble insensé, sous prétexte de faire sauter les... Comment on appelle ça, les DRM, c'est ça?
Voilà. Alors, le problème, c'était que... Oui, moi, j'en avais parlé de cela. On vend de la musique sur Internet en fichier MP3. Maintenant, il y a aussi les fichiers MP3 haute fidélité. Mmh. Et j'avais soulevé le problème que un disque vendu chez un détaillant avait une pochette, il y avait un pressage, il y avait un studio derrière qui faisait attention. Enfin, on espère, parce que comme je le dis, y a aussi une perte de son au niveau des studios d'enregistrement.
Il y a une espèce de platitude du son, de perte des couleurs, des reliefs. Non, il y a une perte de qualité terrible.
Alors, il y a une perte de qualité. Moi, j'avais soulevé le problème de la perte de qualité des radios. On s'aperçoit qu'actuellement, dans les radios FM, alors qu'elles ont la possibilité de faire un son extrêmement bon, on a une espèce de chuintement, il y a des compressions terribles dans les voix, et on arrive à quelque chose de très, je dis pas inaudible, mais d'assez désagréable à écouter. Et j'ai appris que les studios d'enregistrement, maintenant, enregistrent les albums avec des systèmes d'écoute qui leur permet de compresser pour que les disques passent sur les radios avec cette même compression que l'on entend. Mmh. Pour pas que les acheteurs de musique soient perdus, qu'ils retrouvent ce qu'ils ont entendu à la radio.
Qui retrouvent
le même son. Donc on a une perte, alors ça c'est flagrant en France, on a une perte de son et de qualité, alors que l'on a des outils, ils sont bien meilleurs que ce qu'il y avait. Et on se retrouve, alors les gens achètent des outils pour écouter, et en fait ils ont au final une galette, enfin un CD avec un moins bon enregistrement, ou alors un MP3 qui lui est encore
trois
fois moins bon.
Oui, mais il y a par exemple, c'est amusant ce que vous dites, parce que justement les grandes années de la haute fidélité, c'était les années 70, 80... maximum 85, alors soyons généreux, allons jusqu'à 90. Depuis maintenant, on ne pense plus qu'à l'image, qu'à la taille des fichiers, qu'à la taille des sons,
et au numérique
et à l'image. Ouais. Et ce qui fait que maintenant, les gens s'équipent en image, en visuel, mais plus en son. C'est devenu quelque chose d'accessoire, de beaucoup moins important. Et moi je vois ça autour de moi, des tas de gens qui ont acheté des chaînes très 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 belles parce qu'ils avaient ils voulaient un son hyper ceci, hyper cela, etc. Ceux-là sont restés avec leurs disques, mais les disques n'ont pas suivi la qualité des appareils pour écouter. Et on retrouve chez un autre public maintenant cette même fureur d'avoir quelque chose de qualité, mais c'est pour l'image. La haute définition, les plasmas, les ceci, les choses.
Oui, mais le plasma n'est pas... on s'en rend compte. Là, ils s'aperçoivent actuellement que... Là, on est en train de dériver un petit peu. On a quitté l'opéra, mais juste un exemple que l'on retrouve dans le son, mais qu'on va retrouver dans l'image. Les gens achètent du nouveau matériel, genre écran plasma et autres, et on vient de s'en rendre compte qu'ils ont une durée de vie trois fois moindre qu'un téléviseur normal.
Et on a quitté l'opéra, pas forcément, parce que tout à l'heure, je vous parlais peut-être un jour de la possibilité sur Internet de diffuser des spectacles en direct dans le monde entier. Et là, il faudra voir quel est le problème de la compression d'image, le problème de la compression du son. Parce que le rendu d'un orchestre symphonique ou d'un théâtre d'opéra sur un ordinateur, on ne peut pas compresser le son autant qu'on le voudrait. Si on veut garder à la partition un petit peu son relief, les différences de plan sonore, etc. Il ne s'agit pas d'un petit orchestre où tous les instruments sont électriques. C'est pas mettre des claviers, là, ou des synthétiseurs. Là, il faut quand même, il faut que les cuivres ressemblent à des cuivres. Le son des cuivres dans un opéra de Tchaïkovski n'est pas le même que dans un opéra de Wagner. Et il faudra quand même que les gens qui voudront écouter ce spectacle, qu'ils le reçoivent par Internet ou par d'autres moyens, aient l'impression qu'on leur propose vraiment ce qu'ils ont prévu, ce qu'ils pensent entendre, et qui n'est pas un son qui déforme absolument tout. Donc ça aussi, c'est important.
Alors, c'est amusant parce qu'en ce moment, on voit aussi un retour, on parle de son, on parle justement de la dégradation du son, et on s'aperçoit que tout doucement est en train de revenir une recherche de la part des auditeurs d'un son comme dans les années avant 90, avant 92. Avant que le numérique prenne...
Un son avant le CD.
Un son avant le CD. Alors, c'est amusant parce que on a l'exemple en Angleterre et aux États-Unis. Aux États-Unis et en Angleterre, ils se sont aperçus que le vinyle avait augmenté de 15%. Pourquoi ? Parce que les adeptes du beau son trouvent que le vinyle a quelque chose de beaucoup plus profond. Donc on voit maintenant des groupes de rock qui sortent une partie de leurs enregistrements en CD et une partie en vinyle. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, cette nouvelle mentalité qui apparaît en ce moment.
Oui, mais au moment de l'apparition du CD, et là on va revenir dans le monde de l'opéra, c'est la grande cantatrice autrichienne allemande, Elisabeth Schwarzkopf, qui avait dit tout de suite qu'elle était atterrée, qu'elle comprenait pas comment les superbes vinyles ou les micro-sillons des années 50-60 qui respectaient toutes les qualités musicales des interprètes, etc., comment on pouvait les avoir transformés en des galettes si plates, au son si peu intéressant, pareil, manque de relief, de couleur, et que vraiment c'était, pour elle, le CD, c'était la mort des grands enregistrements de ces années-là.
D'ailleurs, c'est vrai qu'ils ressortent difficilement. Alors, des coffrets des enregistrements des années 60 ou 70, par exemple avec Karajan. Mais c'est vrai que ça n'a pas eu cette même folie que ces coffrets de prestige qu'on sortait avec la Deutsche Grammophon.
La Deutsche Grammophon de Jean-Rohm, les Bruckner, les Malin, tout ça, bien sûr. Et puis ça, c'est aussi le petit truc quand même que les grandes maisons de disques investissent assez peu dans la nouveauté. Et font réimprime leur catalogue avec une pochette différente. Là, on se retrouve avec toujours avec des enregistrements des mêmes années, en petite version, en version offerte, en version pas chère, en version. On peut les appeler comme ça tout ce qu'on veut. Je veux dire, ce sont toujours les mêmes disques qui sont dans les bacs.
Alors justement, l'ouverture des frontières avec les pays de l'Est, est-ce que cela a eu un impact énorme vis-à-vis des musiciens classiques français?
Si on revient à ce que je disais tout à l'heure concernant le fait que tout un pan du métier de la musique a disparu, au départ ça a quand même été une grande inquiétude dans la mesure où sans s'occuper toujours de la qualité, mais c'est toujours le problème, c'est qu'il y a souvent des producteurs, des organisateurs qui cherchent à obtenir le maximum au prix le plus bas, le plus modique. Et donc moi j'ai vu, par exemple, on avait vu des organisateurs de concerts qui n'hésitaient pas à faire venir des orchestres russes ou d'ailleurs dans des autocars, les membres de la troupe invités dormaient dans un hôtel un jour sur deux, un jour dans un car, un jour à l'hôtel, un jour à l'autre. Enfin, c'est insensé, c'est une espèce d'esclavagisme nouveau style ahurissant. L'autre problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont enregistrer parce que c'est moins cher, mais ça souvent ça s'entend, même si on peut améliorer comme ça. Beaucoup de gens vont enregistrer en Bulgarie, en Hongrie, parce que là, les musiciens enregistrent toute la journée, c'est la minute enregistrée, ils sont payés à la minute enregistrée, pas très bien, et même plutôt assez mal, et le producteur rentre avec ses bandes, c'est ceci, cela, il fait ce qu'il veut. Et après, il ne les paiera plus jamais. Il pourra employer, multiplier, refaire, etc. Mais c'est une espèce de... C'est pas de l'art. Ça n'a plus rien à voir avec l'art. Et si on prend pour les musiques de films, on peut se demander comment ça se fait que l'avance sur recette du fond du cinéma, qui a quand même une part réservée à la musique, comment on peut faire que tout cet argent parte ailleurs, alors que pendant ce temps-là, on se retrouve avec des musiciens intermittents ici qui sont obligés de pointer aux acédiques. Je veux dire, on marche sur la tête.
C'est tout le problème en ce moment du cinéma français, qui, non seulement au niveau des musiciens, mais également au niveau des techniciens, vont tourner dans les pays de l'Est. Parce que d'abord, ils ont des plateaux qui sont tout préfets qui les attendent. Ils ont des électriciens, et même dans les monteurs, ils font même les montages là-bas. Parce que ça leur coûte 10 fois moins cher. C'est-à-dire que les subventions françaises qui sont faites pour employer des gens et autres servent à être utilisées.
En même temps, il faut savoir ce qu'on veut. L'Europe, c'est ça.
Oui, c'est aussi. Ça aussi.
Mais en même temps, il faudrait essayer de faire en sorte que l'Europe ne serve pas simplement que l'argent de la France en Europe ne serve pas simplement à payer les artistes ou les gens qui travaillent dans ces milieux-là, la musique ou le cinéma des autres pays, pour que pendant ce temps-là, les gens chez nous soient obligés d'aller aux ACDIC. Je dis, il y a un truc qui va pas. On peut dire qu'il y a quelque chose. On sait pas, c'est pas forcément facile à régler. Mais peut-être déjà au moins se pencher sur le problème.
Oui, tout à fait.
Déjà commencer à se pencher sur le problème. Après, bon, c'est vrai que les solutions, il faut certainement des compromis, il faut des choses comme ça.
Oui, parce que de toute façon, les subventions que l'on donne, plus la CEDIC, ça fait quand même très très cher.
Bah, ça finit par faire beaucoup. Ça fait cher si ça ne va pas là où ça devrait aller.
Oui.
C'est là où c'est insensé. Bon, en même temps, moi je sais que j'ai beaucoup dirigé, on va revenir un tout petit peu tout à l'heure, à ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai beaucoup dirigé dans les pays de l'Est, en Hongrie, en Roumanie, en Yougoslavie, dans ces pays-là. Aussi talentueux soient-ils, ils ont un parc instrumental qui est quand même assez misérable. Simplement, les instruments sont en mauvais état, les violons sont petits, il n'y a que les cuivres, parce que ce sont pour beaucoup les Japonais de Yamaha qui ont offert des cuivres dans des instruments dans les orchestres symphoniques de ces pays-là. Donc les cuivres, ça va à peu près. Mais les bois, les hanches, tout ça, et ça s'entend. Enfin, je veux dire, ça devrait s'entendre. Bon, si on écoute. Alors, après. Donc, si on veut comparer la qualité. Les qualités sont pas les mêmes, quoi. Mais les gens sont contents. C'est ça, le problème, il est là. C'est que les gens sont contents. Parce que, grosso modo, ça fait une espèce... on a son fond musical pour son film ou sa série ou sa dramatique. De toute façon, on peut bidouiller un peu, tourner quelques boutons. Les gens parleront dessus, puis on rajoute 2-3 bruitages, et puis ça masque... Le manque de qualité, mais je trouve que c'est un peu se moquer du monde, quand même.
Alors, comment est considéré le musicien français dans le monde entier ? Est-ce qu'on estime qu'il est d'excellence ?
Je crois que le musicien français a plutôt bonne réputation. D'ailleurs, il suffit de voir nombre des gens plus jeunes qui sont partis, ou comme Soli, comme Emmanuel Pahut, qui sont partis à l'orchestre à la Philharmonie de Berlin, ou d'autres à la Philharmonie de Munich. Les musiciens français sont en général... Bon, on a un ancien flûte solo de l'Opéra de Paris qui est parti à l'orchestre de Chicago. C'est des musiciens très bien. Alors le musicien français a la réputation du français d'être à l'heure. Mais c'est pas pour autant que c'est un bon musicien, ça tout le monde le reconnaît. Mais il est un peu râleur, il a pas ce côté très organisé que peuvent avoir les anglo-saxons, mais il n'a pas non plus ce côté très très exubérant que peuvent avoir les musiciens méridionaux. C'est quelqu'un d'un peu le français,
il est entre les deux.
Mais par contre, c'est en général un bon musicien. Il y a quelques chefs français qui font une belle carrière, comme Yann Pascal Tortelier en Angleterre. Il y a des gens très bien, quoi, de qualité, de bonne qualité, parce qu'il y a quand même une solide formation au conservatoire. C'est-à-dire, les gens qui sortent du conservatoire sont des gens qui en général ont une formation musicale solide, très solide.
Quel est pour vous le plus grand violoniste vivant et le plus grand violoniste mort ?
Oh là là, ça, je sens que ça va être une question difficile. J'en sais rien, moi. On va commencer par le plus grand violoniste mort. C'est toujours plus facile. Ils sont plusieurs. Le plus grand violoniste mort, je suis désolé, mais ils sont plusieurs. Parce que les écoles sont différentes. Moi, j'adorais David Ostrak, qui était un violoniste soviétique extraordinaire, qui jouait le violon. Ben, c'était l'école d'Odessa au début du XXe siècle. C'est une chaleur de sonorité, une patte de son extraordinaire. En même temps, j'ai toujours adoré le violoniste français Zino Franceschetti, qui était du midi de la France, comme son nom le dit bien, et peut-être même d'origine italienne, mais je ne crois pas, et qui avait un soleil quand il jouait du violon. C'était une espèce de soleil, c'était vraiment une luminosité extraordinaire. Je ne sais pas, c'est difficile.
C'est très difficile.
C'est difficile parce que, par exemple, en même temps, un interprète, on peut le trouver, on peut le préférer dans un répertoire plutôt que dans un autre. C'est difficile de faire la synthèse de l'œuvre de quelqu'un pour dire « oui, je l'aime bien », mais si on dit « je l'aime bien », c'est « je ne l'aime pas complètement » ou au contraire, ou c'est l'inverse. Je ne sais pas. C'est pas, donc on peut avoir des points de référence, des souvenirs d'écoute dans tel concerto, à tel concert, à telle émission de télévision.
Et dans les jeunes violonistes actuels, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment hors normes? on va laisser passer.
Non, c'est pas ça. C'est terrible que je vois le visage. Mais j'ai toujours ce problème-là. Je vois le visage des gens. Je peux savoir ce qu'ils jouent, mais je ne sais jamais comment ils s'appellent.
Non, parce que j'étais en train de penser à ça, parce qu'on a toujours les médias en avant et qui citent des noms de violonistes et autres. Et moi, j'ai une image, c'est Kennedy.
Nigel Kennedy ?
Oui.
Oui, c'est un sacré violoniste. Ouais. Non, c'est quelqu'un qui a un talent fou, qui est un peu borderline dans son extérieur, dans son attitude, dans son approche. Parce que les gens imaginent que le monde de la musique classique est quand même très, très polissé, très ceci, tout ça. Mais c'est un type qui a un talent fou, quoi. C'est un type qui a un talent fou, ça c'est vrai.
Alors c'est amusant, je vais revenir à la dernière phrase que vous venez de dire, parce que ici nous avons quand même beaucoup d'artistes classiques qui viennent enregistrer. Ouais. Et justement, moi je les trouve toujours en borderline.
C'est vrai ?
Oui. Je trouve toujours qu'ils ont ce côté très classique dans leur musique, et puis d'un autre côté, qu'ils sont complètement hallucinés.
Honnêtement, je pense que pour faire ce métier, c'est une forme de mysticisme, hein, la musique, quand même.
Oui.
Donc on est quelque part un peu, on n'est pas forcément toujours en transe, mais on est certainement pas mal halluciné, oui. parce qu'on essaye de symboliser des choses, des sentiments. On vit par l'expression de sentiments. On vit que de ça. Et non seulement on vit que de ça, on essaye d'en recevoir un maximum, mais c'est beaucoup plus difficile d'en donner encore. Dire pas d'en donner, pas d'en avoir, mais de les transmettre, de faire que ça transparaisse au public, pour que le public le ressente, ça. Et ça, c'est je pense le plus difficile dans le fait de jouer d'un instrument de musique. Mm-hmm. C'est pas de bien jouer. Bon, si, bien sûr, c'est très difficile. Mais c'est de communiquer ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on essaye, qu'on essaie de charger une phrase d'émotion, de sentiment, et de faire que ça soit compris que c'était ce sentiment ou cette émotion-là. Il faut dans le jeu, je parle pas dans la phrase musicale telle qu'elle a été écrite par le compositeur. Il y a des phrases, quand on les écoute, même d'une manière un petit peu neutre, on se rend bien compte que c'est triste, on se rend bien compte qu'on va pleurer, ou on se rend bien compte que c'est une espèce de folie. Mais pas, c'est simplement si on lit la musique. Mais si en plus, quand on la joue, ça paraît évident. Par exemple, si vous prenez par exemple n'importe que... La fameuse l'aria du duc de Mantoue dans Rigoletto. Bon, très souvent, si vous écoutez ça, et c'est souvent dans des grands orchestres, avec des très bons chefs, vous entendez... Pom, 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 pom. Ça n'a plus rien à voir avec un gars qui sort du cabaret, où il a lutiné une fille toute la nuit, il est tout content, il se balade dans les rues, il siffle tout seul. C'est la même musique, ce sont les mêmes notes, mais ce n'est pas le même esprit. Et c'est ça qu'il faut transmettre au spectateur ou à l'auditeur. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Franchement, c'est bon, il dira, tiens, si, ah, ça je connais. Ah, ça je peux le chanter, oui. Dans quel esprit ? Il faut se mettre il faudrait que le spectateur se mette à la place de l'interprète et qu'il soit conquis et qu'il ait l'impression qu'il va faire la même chose.
Alors le chef d'orchestre, vous préférez un chef d'orchestre qui soit très rigoureux, très dur avec ses musiciens, mais qui arrive à faire passer quelque chose ? Ou alors celui qui paraît un peu je m'en foutiste, très gentil ?
Non, ça surtout pas.
Je ne sais même pas si ça existe d'ailleurs.
Si. Non. Il faut qu'un chef d'orchestre soit rigoureux dans les répétitions. Même plutôt un peu carré, un peu strict. Il faut, parce que c'est quand même essentiel, qu'il fasse toujours la même chose. On en a comme ça, qui improvise. À chaque fois, c'est différent. Et donc, c'est donc à la limite, son interprétation n'est pas forcément bien fixée. Dans son esprit. Bien sûr, il peut y avoir des fluctuations, mais il faut que ça soit le même esprit de la phrase, dans l'articulation. Il faut que ça soit quelqu'un qui, même s'il a été très rigoureux, limite, entre guillemets, pète sec pendant les répétitions, il faut qu'il se lâche au concert. parce que si je ne lâche pas au concert, après, c'est trop tard.
Ça ne change jamais.
Non, voilà. Je veux dire, il y a un chef d'orchestre que moi j'aime beaucoup, que j'adore énormément, et qui en plus est un des rares chefs d'orchestre français encore vivant et qui a fait une grande carrière, c'est Georges Prêtre. Et qui, bon, il se trouve que je le connais bien et depuis que je suis enfant, et qui me disait, puisque tu veux diriger, il dit, quand tu es au pupitre, il faut oublier toute pudeur. Tu diriges ta musique, tu n'as plus personne en face de toi, ni derrière. Sinon, si on est toujours retenu par quelque chose, par un sentiment de « Ah, ça se fait pas, ah, je vais être ridicule, c'est foutu, quoi. » Ce qui compte, c'est l'interprétation qu'on veut donner. Et à la limite, je crois que ce que... Il y a des artistes, mais dans un certain style de musique, qui ont très bien compris ça, c'est les jazzmen. Qui, quand ils partent dans une improvisation, une fois qu'ils ont établi le thème, etc., et la carrure, etc., partent et sont libres. Et n'oublient pas ce qu'ils ont à faire, mais ils ne s'occupent pas des signes extérieurs.
Tout à fait.
Et je crois que c'est... Peut-être maintenant, ça vient effectivement dans la musique classique, mais c'est pas encore l'habitude, quoi. C'est pas peut-être entré dans les mœurs pour tout le monde. La musique classique a souvent été affublée de cet adjectif terrible, sérieux.
Oui, c'est
peu.
Vrai. Oui, oui.
C'est pas parce qu'on fait de la musique dite classique, encore que classique, faut bien voir où ça commence, où ça finit. C'est pas obligé. Sérieux dans le sens du bienfait, d'accord. Mais sérieux dans le sens de chiant, non. C'est pas la même chose.
Bien, nous allons terminer là.
Je
voulais savoir quel est votre calendrier dans les mois qui vont suivre au niveau artistique.
Au niveau artistique, j'essaye de monter un petit opéra de chambre écrit par un compositeur allemand qui s'appelle Udo Zimmermann et qui raconte les dernières heures terribles d'un couple frère et la sœur de jeunes résistants allemands, Hans et Sophie Scholl, avant qu'ils soient décapités à Munich en 1943-1944.
D'accord.
Et c'est un petit opéra de chambre, il y a 15 musiciens, il y a deux chanteurs, et ça dure 1h15, et ce sont les derniers instants dans leur cellule avant l'exécution. C'est à la fois terrible, et c'est en même temps plein d'espoir, d'avenir, de conscience que c'est pas inutile. Moi, je trouve que c'est une belle page.
Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu.
Ça m'a fait plaisir.
Gally.
Merci de.
Et puis j'espère.
Merci de m'avoir permis de parler. J'adore parler.
Oui.
Donc.
Nous vous réinviterons.
D'accord, c'est gentil. Merci.
Bien, mais merci beaucoup tous. Le prochain rendez-vous, c'est avec Elisabeth Cooper. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Autre radio, autre culture. Autre radio, autre culture.